Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Qu'est-ce qui a motivé l'interdiction de vendre des objets classiques aux écoles primaires et secondaires de la RDC? Bien, on va aborder tout à l'heure ce sujet avec nos deux invités, Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education. Et Marion Sigle est en ligne. Serge Bondedi, bonjour. Vous êtes en ligne, Serge Bondedi?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons également un deuxième invité, Jean Moupépé, président provincial de l'Association nationale des écoles privées agréées à SONEPA en sigle. Voilà le sujet pour cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Alain Goy est toujours là, à la mise en onde. Et Tati Mapouko également réalise et coordonne toujours ce magazine présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matoki.
Au Capi Métissage, fais le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Au Capi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Capi.
Voilà, c'est parti pour ce deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a interdit la vente des objets classiques aux écoles publiques et privées à partir de cette année scolaire. Le commerce des uniformes, des cahiers et des cahiers des communications, des journaux des classes et autres fournitures sont strictement interdits dans ces établissements. Les parents sont obligés d'acheter uniformes, cahiers et cahiers de communication, journaux de classe et autres fournitures chez les commerçants. Qu'est-ce qui a poussé le ministère de tutelle à prendre ces décisions? Nous allons aborder ces questions avec Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education. Si vous êtes intéressé, je rappelle le numéro des contacts, c'est 081-890-6394, horizon 99, 706-63-94. Dites-nous, Serge Bondedi, d'entrée de jeu, pourquoi cette décision et qu'est-ce qui se passait avant? Donc, si je comprends bien, les uniformes, les cahiers, les communications, les journaux des classes et autres fournitures scolaires, on les achetait directement dans les établissements, c'est bien cela?
Non, en fait, il y a lieu de rappeler que l'interdiction de vente des uniformes et autres objets classiques à l'école, c'est une vieille décision qui vraiment vient de longtemps. Alors cette année, dans le cadre de la politique du redressement, qui se marie avec le combat que nous avons toujours lancé, le combat de la lutte contre la marchandisation, les effets néfastes de la privatisation et du monnaie de l'enseignement, nous avons plaidé pour que le tutelle puisse accepter ces mesures. C'est pour cela qu'il a donné déjà dans les deux instruments principaux, vous avez notamment la circulaire portant frais de scolaire qui coûte un certain nombre de principes. Vous avez également le calendrier scolaire qui interdisent ces faits-là, mais vous avez également la perception de frais en devise étrangère qui est catégoriquement interdite. Alors, c'est sur base de ces éléments que le ministre avait donné instruction à Madame le secrétaire général à l'EPST de prendre donc une nouvelle lettre circulaire rappelant cette interdiction. Et il y a eu également le secrétaire, plutôt l'inspecteur, monsieur l'inspecteur général, qui a instruit le ZIPP, a instruit leurs itinérants où le chef de poule a se déplacé sur le terrain pour pouvoir sanctionner sévèrement les écoles qui font ces pratiques. Alors, pourquoi une telle décision? Vous savez, je ne vais pas aller dans beaucoup de faits, mais ce que je compte dire brièvement et sommairement, l'éducation, c'est un secteur normatif. L'éducation est une valeur qui mérite d'être protégée. Et l'éducation est un droit, c'est-à-dire qui est sujet à des normes fixées du point de vue international, national. International et national. Alors, sur base de ces normes du point de vue international. Et la RDC a adhéré, je vous cite, je ne vais pas citer beaucoup de textes internationaux, mais je vous cite au moins celui des principes d'Abidjan. C'est un document mis en place par les États francophones en lien avec les droits à l'éducation. Et ce document fixe un certain nombre de principes que l'État, comme pouvoir organisateur de l'éducation dans des États, peut veiller. Et vous avez là l'instrument, le principe d'Abidjan fait allusion aux questions de la marchandisation. Et parmi ces questions de la marchandisation, vous avez ce fait-là, ce caractère, cette tendance à transformer l'école en un lieu de commerce. Cette tendance à changer la nature de l'école. Donc, lorsque on confond l'école comme l'établissement créé par arrêté des ministres pour recevoir les enfants, afin de les enseigner, de leur donner de l'instruction, de leur assurer l'éducation pour leur épanouissement, à un établissement commercial qui est une juridiction tout à fait à part, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas permettre cela. C'est ça, en fait, la nature de cette décision, la nature de ces rappels. Parce que lorsqu'on change l'école à un établissement commercial, à ce moment-là, d'abord, du point de vue juridique, l'école n'a pas qualité, n'a pas mandat de vendre parce que l'école n'est pas reprise parmi les institutions ou les personnes habilitées à poser les actes de commerce. L'exercice de la République démocratique du Congo et partout ailleurs est réglementé. Vous avez le droit au ADA, vous avez tout, les droits économiques, tout ça dans notre pays. Et l'école n'est pas reprise parmi ces institutions-là. Et au moment où on pratique le commerce à l'école, on s'expose même à beaucoup de cas répréhensibles. Vous avez l'exercice illicite de commerce. Vous avez vous faciliterez également l'évasion fiscale parce que ceux qui vendent à l'école, il n'y a pas des inspecteurs économiques qui viendront à l'école pour pouvoir vérifier si on vendait des choses. Donc là, c'est d'abord du point de vue économique et financier, mais du point de vue pédagogique. Ceux qui vendent ne sont pas engagés pour vendre. Ils sont engagés pour prester, pour offrir des services très bien déterminés. Il est soit enseignant, soit c'est un huissier, soit c'est un administratif. Mais lorsqu'on transforme ces gens-là pour devenir agents commerciaux, et à ce moment-là, ils vont mettre de côté le sens de l'école pour s'occuper au commerce, et du point de vue droit humanitaire, cela occasionne ce qu'on appelle les discriminations et les inégalités. Parce que l'enfant qui n'achète pas, on va le traiter comme s'il était dans un supermarché, il n'aura pas accès au cours. L'enfant qui n'achète pas les uniformes du promoteur, on ne va pas l'accepter, ainsi de suite. Voilà pourquoi, pour préserver l'école de sa nature, de ses missions, de son bien-être, il faut interdire ces pratiques et c'est ce qui a été fait.
Voilà, Serge Bondedi, on vous garde encore en ligne. Nous avons le deuxième invité qui est déjà en ligne aussi, Jean Moupépé, président professionnel de l'Association nationale des écoles privées agréées. Et Jean Moupépé, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à notre ami Serge Bondedi. Bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Voilà, il y a cette interdiction du commerce des uniformes, des cahiers de communication, des journaux, des classes, autres fournitures strictement interdites dans les établissements scolaires. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
J'aimerais d'abord poser une question à Serge. Quand il dit interdiction formelle de pratiquer le commerce dans les écoles, Serge a-t-il déjà vu devant les entrées des écoles ou aux alentours des écoles tous les petits marchés qui s'y développent? Ceux qui vendent là, est-ce qu'ils payent des taxes à l'État? Et ils vendent à qui? Aux élèves? Je pense que là, il y a à réfléchir aussi. En ce qui concerne ce que les écoles vendaient, la décision de l'autorité est valable, mais il faut qu'il y ait certaines considérations. La loi cadre de l'enseignement national, parce qu'il parle de commerce, la loi cadre de l'enseignement national dit que les établissements d'enseignement peuvent organiser des activités d'autofinancement. Quand nous parlons des écoles qui organisent des activités d'autofinancement, c'est soutenu et défendu par la loi cadre, parce que l'État reconnaît que parfois les moyens mis à la disposition de l'école ne sont pas suffisants pour qu'elle puisse faire son travail convenablement. Je prends un cas. il y a des taxes, disons, des frais que les écoles doivent engager qui ne sont pas repris sur les structures ou sur les instructions du ministère. Par exemple, en ce moment, pour former les chargés de sport dans les écoles, on demande 30 000 francs pour une école secondaire et 20 000 francs pour l'école primaire. Je n'ai pas vu ces frais dans les arrêtés signés par l'autorité. Pour revenir sur les ventes à l'école, je ne soutiens pas cela, mais il y a certains faits que M. Serge et tous les autres doivent considérer. Par exemple, quand une école organise une cantine, vend des biscuits, vend des beignets, ou vend de l'eau ou du jus, ce n'est pas toujours de la volonté de l'école. Je peux citer deux parents chez moi dans mon école. Le premier, c'était un colonel, médecin militaire. Son hôpital était derrière l'école. Il avait fait une étude et constaté que, à certaines périodes, les enfants étaient malades et avaient des problèmes de vomissement, des problèmes de diarrhée, des problèmes de gastro-entérite. Et son étude a révélé que tout cela partait de la vente qui se faisait aux entrées des écoles par les commerçants ambulants ou les dames qui s'agglutinaient aux entrées de l'école. Parfois, il constatait que les beignets vendus aux enfants étaient emballés dans des sachets qui ont servi à la farine, disons, à la maman qui a acheté la farine au marché. Elle utilise les mêmes sachets pour venir revendre à l'entrée de l'école. Là, c'était un colonel, un médecin militaire. Il a envoyé parfois des militaires chasser ceux qui vendaient à l'entrée de l'école. Parce que l'hôpital était derrière l'école et l'école avait une certaine convention avec cet hôpital. Mais le nombre de maladies à la saison des récoltes, des mangues, des oranges, des divers fruits, montrait que ces petits marchés-là étaient à la base des maladies des enfants. Un autre parent, c'était un ingénieur de Memisa, toujours un organisme qui s'occupait de la santé, avait dit, pour moi, mes enfants ont du mal parfois à manger à la maison. Je propose que vous vendiez quelque chose à l'école. Comme nous avons dit, c'est interdit, et puis nous ne pouvons pas faire le commerce. Où est-ce que nous allons acheter ce que vous voulez que nous vendions ? Il nous a apporté des biscuits achetés par lui. Il est venu déposer à l'école et dit, vous vendez au prix, même inférieur au prix de la ville. L'école peut prendre un franc, le reste, moi, je récupère pour vous fournir des biscuits régulièrement pour que les enfants aient quelque chose de propre à manger. Là, je crois qu'il faut qu'on reconsidère que l'école ne le fait pas pour besoin de lucre, mais c'est pour assurer, par exemple, les conditions hygiéniques des repas que les enfants peuvent prendre à l'école, mais aussi les conditions de sécurité. Parce qu'on peut conduire les enfants à manger des choses, à ingérer des microbes ou des produits toxiques dans ce qui vient de l'extérieur.
Mais Jean Moukoupé,
il faut revenir aux uniformes.
Bah justement, je vois que vous insistez parce que l'interdiction concerne plus les commerces des uniformes, des cahiers de communication, des journaux, des classes.
J'y arrive. Dans le commerce des uniformes, l'interdiction frappe la vente des tenues et même des logos qu'on met sur les uniformes, n'est-ce pas? Je prends le cas des uniformes. Je prends le cas de mon école. Le ministère dit d'abord que l'uniforme des élèves du Congo, c'est bleu et blanc. Chemise blanche ou blouse blanche, pantalon bleu ou jupe bleue. N'est-ce pas?
Oui.
Mais le ministère a pris une autre circulaire. C'est difficile, quand vous voyez cette foule d'élèves sur la route avec bleu et blanc, de pouvoir les identifier. De quelle école sont-ils? Vers quel quartier ils vont? Parce qu'il y en a qui font l'école buissonnière. Et le ministère, en son temps, avait pris une instruction pour dire que les écoles fassent des signes distinctifs pour identifier les enfants. La tenue de l'élève congolais, du primaire comme du secondaire, c'est bleu et blanc. Mais les signes distinctifs que les écoles doivent faire viendraient d'où? Ce sont les parents qui vont les faire ou ce sont les écoles qui vont les proposer? C'est ça qui a fait que les écoles parfois demandaient que les enfants fassent estampiller sur leurs uniformes les logos de l'école. Ça demande des frais. Soit on fait venir quelqu'un, un sérigraphe ou je ne sais pas qui le donne, qui le fait. Soit l'école fait un petit logo sur un tissu que les enfants doivent recoudre sur leur tenue. Ça, c'est ce qui concerne les uniformes. Toujours en ce qui concerne les uniformes, vous remarquerez que certaines écoles aiment copier ce qui se fait auprès de leurs voisins. Vous pouvez avoir dans le même quartier, comme ici, chez moi, à Kikwit, 5 écoles dans l'environnement immédiat de la mienne qui copient l'uniforme de mes élèves, avec à peu près les mêmes signes distinctifs posés aux mêmes endroits. Nous avons dit que l'État interdit que les écoles vendent les uniformes, les parents peuvent faire les uniformes et donner aux enfants la possibilité d'aller à l'école dans une tenue reconnue. Qui dit uniforme dit généralement qualité des tissus, couture, prix des tissus, etc., etc. Et l'uniforme est fait pour ne pas créer des distinguos entre les enfants des riches et des pauvres. On suppose que ça doit être le même tissu, ça doit être la même couture. Mais quand il y a des exagérations, que faut-il faire? Les écoles en sont arrivées à la vente des uniformes pour que ça soit vraiment uniforme. Le même tissu, la même couture, avec les mêmes insignes. Est-ce que cela a été pris en considération? J'aimerais que l'ami Serge puisse réfléchir là-dessus aussi. C'est ce qui a amené les écoles à faire cet effort-là de mettre à la disposition des parents des tenues identiques pour tous élèves, pour qu'il n'y ait pas de classe dans les tissus, dans la couture et dans la présentation des uniformes que les enfants
ont. Alors Jean-Moupépé, j'espère que les parents auront à réagir, parce qu'une question qu'on peut se poser, est-ce que dans ces écoles privées, j'imagine, où on exigeait aux parents d'acheter des uniformes, des cahiers, des communications, des journaux de classe dans ces établissements, peut-être qu'il y avait un problème de prix et que le prix a été peut-être c'était peut-être très cher et peut-être les parents se sont plaints, je n'en sais rien. De toutes les façons, j'espère que les parents vont réagir tout au long de cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Je rappelle à ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Nous parlons de ce qui a motivé l'interdiction des ventes des objets classiques aux écoles primaires et secondaires de la RDC. Si vous voulez intervenir, vous pouvez nous appeler au 0 81 890 63 94 ou encore 09 756 63 94.
Okapi Sport vous propose en rediffusion sa partie interactive tout le lundi à 14h15, heure de Kinshasa. La passion du sport, c'est sur Radio Okapi.
Kachai nous appelle de Kanyoka. Bonjour Kachai.
Bonjour monsieur Tati Mapoukou, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute Kachai, c'est Marcel Ngombombala qui est à l'antenne, on vous écoute.
Merci beaucoup monsieur Marcel du correctif. En tout cas, c'est vrai, la loi est votée, publiée pour que ceux qui s'adonnaient aux pratiques de vente des objets scolaires puissent cesser. Mais monsieur Marcel, il y a un problème. Le vote de la loi ne suffit pas, mais il faut maintenant savoir s'il y a un contrôle ou soit le suivi pour que cela soit respecté, que cette loi votée soit scrupuleusement respectée par les responsables des écoles. Ici, à Kanyoka, par exemple, M. Marcel, nous avons quelques écoles privées, mais chaque école a un uniforme, un modèle d'uniforme qui l'oblige aux élèves de pouvoir acheter. Auquel cas, l'élève ne sera pas admis. C'est un. Et puis, l'uniforme doit être acheté où? Doit être acheté à l'école. Vous ne pouvez pas acheter ailleurs. Même certains objets scolaires, tel est le cas des cahiers de communication, les journaux de classe, ces objets-là ne sont pas achetés sur le marché, mais plutôt à l'école. Et dès la rentrée scolaire. Et jusqu'à maintenant, on donne même à crédit aux élèves pourvu qu'ils soient contraints à payer. Alors, maintenant, je ne sais pas si, parce que la loi est votée, c'est vrai, elle est dans le tiroir au ministère de l'EPST, mais elle n'est pas colportée. Les responsables des écoles, parfois, ils connaissent l'existence de la loi, mais ils l'ignorance. Ils ne communiquent pas aux élèves, et pas non plus aux parents. Et les parents ne dénoncent pas. Parce qu'il y en a qui sont dans la peur, pourvu que s'ils dénoncent, leurs enfants seront chassés de l'école. Alors c'est ainsi que nous demandons au ministre. Excellence, monsieur le ministre, avec les ONG qui appuient l'enseignement, la gratuité de l'enseignement en RDC, et accepter d'envoyer les inspecteurs. Parce que maintenant, là, ce sont les inspecteurs de l'EPST qui ont la charge de faire appliquer la loi dans toutes les écoles du secteur public et du secteur privé. Si les inspecteurs ne descendent pas, on ne va pas respecter. Et surtout que l'année a commencé depuis le mois de septembre. Nous sommes maintenant au mois d'octobre. Et les élèves ont déjà payé les uniformes. Moi, j'aurais souhaité que ces mesures-là soient renforcées l'année prochaine. Parce que maintenant, là, si l'élève n'a pas payé l'uniforme exigé par l'école, elle ne sera pas, considérée comme élève de cette école-là. Si il n'a pas, elle n'a pas le cahier de communication, le journal officiel, ayant le sceau, parce que chaque journal, chaque cahier, il y a un sceau qui est de l'école. Et si vous n'en avez pas, vous n'allez pas continuer à étudier. Donc, voilà, ce que nous demandons, c'est que qu'il y ait un contrôle, un suivi dans toutes les écoles, surtout les écoles. Chez l'État, parfois, les gens craignent. Ils disent que si nous allons faire ceci, on va nous chasser, on va nous punir. Mais dans le secteur privé, ce sont les patrons des écoles. Vous n'avez pas donné l'argent à quelqu'un pour construire son école. Quand il impose son dictat, vous pensez qu'il va obtempérer au message de l'État? Alors, c'est ainsi que les inspecteurs doivent descendre. Mais aussi, monsieur Marcel Ngoumbala, que les inspecteurs ne soient pas corrompus par les responsables des écoles pour qu'ils ne dénoncent pas le mal constaté à ces écoles-là. Parce que s'ils sont corrompus, surtout avec de bonnes sommes d'argent, quand on vous donne une enveloppe, une bonne enveloppe d'ailleurs, et pour que vous ne puissiez pas dénoncer, je ne vois pas cet inspecteur-là qui dort affamé chez lui avec un méga de maïs à 12 000 francs ici à Canara. Est-ce qu'il va refuser d'accepter l'argent pour dénoncer le mal constaté dans l'école? Merci.
Merci, Ketchaï, d'avoir appelé depuis Kanyoka. Serge Mondedi, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, M. Marcel. Le sujet est vraiment très intéressant. Malheureusement, je suis partagé entre plusieurs activités à la fois. Sinon, j'allais rester plus longtemps avec vous. Mais vous savez, merci d'abord pour la salutation de mon co-débatteur. Ici, nous devons être beaucoup plus précis. La question de la vente des histoires alimentaires, ce n'est pas le sujet des actions de l'IMAE, bien que c'est aussi une matière. Bon, nous ne sommes pas dans l'agroalimentaire, ni moins encore dans tout ce qu'il y a dans tout ce qu'il y a là. Donc, bien que nous pouvons porter l'affaire en termes de plaidoyer, mais vous savez, l'école peut vendre des beignets à l'école au moment où tout va bien, ça va bien. Mais s'il s'avère que ces beignets-là sont intoxiqués, du jour au lendemain, les gens vont se rendre compte du drame qu'ils vont causer aux enfants et des risques qu'ils sont en train de parcourir. Donc lorsqu'on dit à des gens certains principes, c'est pour aussi les aider à éviter un certain nombre de problèmes. Imaginez des beignets qu'une école vendait et qui conduiraient les enfants à la mort ou à une intoxication sévère entraînant perte de validité. Vous imaginez? Donc ici, nous sommes dans une question qui est beaucoup plus précise. L'interdiction de la vente des uniformes. Je crois que la question que mon co-débatteur a soulevée, je crois il y a 3 ans, l'IMAE a eu une séance de travail avec le secrétaire général à l'EPST, à l'époque c'était M. Jean-Marie Mangobé, où nous avons effectivement posé le problème de la nécessité du renforcement du cadre réglementaire applicable en matière des uniformes scolaires. Et là, nous avons ce qu'au niveau de l'IMAE, nous appelons la taille admissible, la couleur admissible. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Mais dites-nous, Serge, cette mesure concerne les écoles aussi bien privées que publiques?
L'interdiction concerne toutes les écoles. Et nous devons savoir que les écoles privées ne doivent pas. Récemment, il y a eu la table ronde avec des écoles privées. Je crois que lorsque le ministre de tutelle a pris la parole, il a rappelé aux écoles privées qu'elles ne sont pas les électrons libres. Lorsqu'on organise une école privée, c'est une école qui d'abord doit être agréée. Pour que cette école soit agréée, elle doit remplir un certain nombre de conditionnalités, parmi lesquelles la viabilité, parmi lesquelles le respect aux lois de la République. Et dans les lois de la République, il est clairement dit que celui qui organise l'enseignement, c'est le gouvernement. Ce n'est pas un promoteur, ce n'est pas un préfet des études, ce n'est pas un directeur d'une école primaire. C'est le gouvernement qui organise l'enseignement. Et tout bon citoyen doit commencer par reconnaître ces rôles-là à l'État. Parce que si les États se sont convenus, c'est soit eux qui organisent l'enseignement, ce n'est pas en vain. C'est sur base des considérations internationales. C'est le consensus mondial dégagé en matière de l'application du droit à l'éducation. L'éducation est un droit, l'éducation ce n'est pas un domaine où on vient, on fait ce qu'on veut et on en ressort. Non, vous ne pouvez pas vous réveiller le lendemain, vous dites non, puisque je veux que mes enfants, ainsi de suite. Non, il faut vous conformer aux lois de la République. Il faut vous conformer. Mon co-débatteur a fait allusion à la question des activités d'autofinancement. Non, il ne faut pas qu'il y ait amalgame ici. L'autofinancement, ici, quand nous sommes en matière du droit à l'éducation, toute activité qui doit se faire par les institutions éducatives doivent tenir compte du droit sensible à l'éducation. Vous ne pouvez pas mener, imaginez, au nom de l'autofinancement, vous invitez, on voit souvent à Kinshasa, vous avez des écoles comme Académie des Beaux-Arts, vous avez l'Institut de la Gombe, où il y a des activités, je ne citerai pas les noms des entreprises pour raison de publicité gratuite, où on organise des activités avec certaines sociétés de télécommunication. Mais vous ne pouvez pas, au nom du droit ou de facilitation de l'autofinancement, dire aux enfants, des jours, vous n'allez pas étudier parce qu'une société de télécommunication a loué l'espace de notre école. Ça ne va pas se faire. Vous ne pouvez pas dire au nom de l'autofinancement, nous allons organiser des kermesses dans une école. Ce qui est interdit, il y a des règles par rapport à cela. L'autofinancement doit être développé dans des choses qui ne portent aucunement atteinte au droit à l'éducation des enfants. Lorsque vous développez la vente des uniformes, je crois que Katia l'a dit, lorsque vous développez les activités de vente, il y a l'aspect marchandisation qui intervient parce que vous allez obliger aux enfants d'acheter chez vous et non ailleurs. Et lorsqu'on oblige, vous avez pour la plupart des cas des prix très supérieurs même au-delà du marché. La qualité, ça fait défaut. Ça fait défaut. Et ça provoque des disparités, ça provoque des inégalités. Et il y a des enfants qui subissent, voire même des cas de marginalisation, parce qu'il a apporté l'uniforme qu'on a acheté ailleurs, mais vous aurez les promoteurs, les chefs d'établissement ou un enseignant chargé pour ce faire, qui va stigmatiser même les enfants.
Mais dites-nous, Serge, oui. Comme l'a évoqué Jean Mopépé, des logos sur les uniformes pour pouvoir identifier si l'élève a éduqué l'école, est-ce que c'est pas intéressant ça?
Ça, c'est une histoire connue. Personnellement, j'ai participé à plusieurs enquêtes sur des cas de délit des enfants en uniforme et l'identification a été rendue facile à cause des logos. Et, monsieur Marcel, vous vous rappelez, nous tous, nous avons fait l'école secondaire, la vie scolaire. Mais dans l'ancien temps, ça posait aucun problème parce que il ne faut pas que les promoteurs fassent voir aux gens comme s'ils n'ont pas de moyens de l'ère politique. Ils fixent des frais de scolarité. Et dans ces frais de scolarité, c'est pour le fonctionnement de l'école. C'est-à-dire que lorsque vous fixez un frais, il faut prévoir toutes les activités. Est-ce que l'école dispose d'un canevas budgétaire, oui ou non? Dans ce canevas budgétaire, il y a des activités qui concourent à la reprise d'une année scolaire, parmi lesquelles vous avez l'assainissement des salles qui ont resté 2 mois et demi sans être utilisées. Il y a des poussières et consorts, il y a d'autres qui embellissent, et vous avez l'accueil des nouveaux enfants. Et dans cette activité de l'accueil des nouveaux enfants, pour engager un sérigraphe et acheter de matériel, c'est ce qui se faisait dans l'ancien temps. On vous dit, bon, demain, préparez-vous, mettez des cinglés parce qu'il y aura un sérigraphe qui va venir et vous passez à tour de rôle, salle par salle, garçon par garçon, fille par fille, on estampille la chemise. Ça posait aucun problème. Mais c'est dès lors que vous avez des velléités marchandes dans le secteur éducatif, c'est à ce moment-là nous tombons dans le coup de la commercialisation de l'éducation, c'est-à-dire on fait l'importation de méthodes commerciales dans un domaine qui ne peut pas être utilisé comme un outil commercial. Donc, il faut que le promoteur sache que tout ce qu'ils ont apposé comme acte dans le secteur éducatif ne peut pas être entaché de la commercialisation ou de la marchandisation au risque de provoquer des séismes ou des catastrophes, voire même de problèmes sérieux dans l'application ou dans l'exercice du droit à l'éducation que les enfants en droit le plus légitime et le plus fondamental.
Voilà. Donc, Merci beaucoup à Serge Bondedi. Hein. Vous avez dit, vous avez plusieurs activités. On va vous laisser poursuivre vos autres activités. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté, en tout cas, pendant de contribuer à ces sujets sur ce qui a motivé l'interdiction des ventes des objets classiques aux écoles primaires et secondaires de la RDC. On va poursuivre avec notre deuxième invité, Jean-Mo Pépé. Merci, Serge Bondedi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education, IMAI en sigle. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Je reste disposé pour la prochaine occasion.
Merci. Alors, on va poursuivre avec notre deuxième invité, Jean-Mo Pépé, président professionnel de l'Association nationale des écoles privées agréées. Bon, bien que le premier invité soit déjà parti, si vous voulez d'abord bien réagir, Jean-Mo Pépé.
C'est dommage que Serge soit parti.
Il soit déjà parti.
Il a fait allusion à la table ronde. J'y étais. Oui. Lui-même n'y était pas. Il a été représenté. Je voulais lui dire que j'étais le secrétaire général rapporteur de cette table ronde. Tout ceci a été dit et je le sais. Mais nous ne devons pas être hypocrites. Si nous disons la vente des uniformes, c'est interdit, et que sur terrain, chaque parent peut acheter le tissu de sa qualité, peut faire la couture de sa qualité, les disparités vont exister, oui ou non, dans les écoles. Les enfants des familles aisées vont vanter leur tenue. Nous avons la même couleur, nous avons la même couture. Mais regardez chez vous, regardez chez moi. Est-ce qu'on a tenu compte de cela? Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire à Kinshasa, nous avions un ami qui habitait Livoulou, le quartier des professeurs. Il avait l'habitude de dire, regardez ma paire de chaussures, celle-là, elle vient de Karina. Pour ceux qui ont grandi à Kinshasa, ils savent que Karina, c'était le magasin de luxe où les parents sérieux achetaient des habits pour leurs enfants. Il y a Bino et Outina, avenue du commerce. Les disparités existaient, oui ou non? Qu'on ne généralise pas les choses. Si quelques promoteurs ont fait des abus, est-ce que tous les promoteurs ont fait des abus? Il y en a qui poussent par souci d'humanité. Que ce soit les promoteurs des confessions religieuses qui organisent des écoles privé agréé, que ce soit des promoteurs qui, par philanthropie, prennent même en charge certains frais des élèves, on va les mettre dans le même panier? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand je parle de la table ronde a dit des choses précises. Mais pourquoi j'ai parlé de cantines scolaires? C'est parce que sur le terrain, il y a des abus. Il y a des IPP, des provettes, qui sont sortis du cadre tracé par le ministre, qui sanctionnent à tour de bras. Même pour les logos, même pour les cantines scolaires. C'est dommage que Serge soit parti, il fallait qu'il soit là pour qu'on continue les débats. Je vous dis que j'étais à la table ronde, le représentant de l'IMAE a signé avec nous l'acte d'engagement des écoles privées avec le gouvernement congolais. C'est cet acte d'engagement qui va s'appliquer à toutes les écoles privées agréées. Donc je ne serai pas là pour renier ce que nous avons signé comme obligation devant l'État. Mais je me dis ceci, est-ce qu'on peut favoriser l'hypocrisie? Un promoteur, comme disait quelqu'un, peut dire, bon, ça va, on ne vend pas les uniformes chez moi, je ne fais pas des uniformes, bon, je m'engage ou je demande à un commerçant de le faire et de venir vendre devant l'école. Parce que les marchés devant les écoles ne sont pas défendus. Et à ce moment-là, l'État retrouve son compte. Je crois que tout est problème de contrôle. Et Katia y a dit, si les inspecteurs font très bien leur travail, ils peuvent renseigner l'autorité pour dire, dans ce quartier-là, c'est un quartier pauvre, si le promoteur a fait des uniformes, il les vend même moins cher qu'en ville. La plupart des commerçants aujourd'hui, vous savez comment ils pratiquent? La marge bénéficiaire dans ce pays, c'est connu, c'est à peu près 35% de tout ce que vous avez investi. Est-ce que les commerçants qui vendent les uniformes en ville ou dans nos marchés respectent cette marge bénéficiaire? Et si le promoteur est en deçà de cette marge bénéficiaire, il devient automatiquement voleur? Ce sont des questions qu'on devrait se poser. Les décisions sont importantes, elles sont bienvenues, mais qu'on fasse pas l'amalgame, comme l'a dit Serge tout à l'heure. Qu'on essaie de voir là où l'on rend réellement service. Ça, c'était un premier aspect. En ce qui concerne ces uniformes, et même tout ce qui a été pris comme décision, j'ai été heureux d'entendre Serge dire qu'on interdise ça l'année prochaine. Parce que certains promoteurs ont investi, peut-être, avant que la décision ne soit rendue obligatoire ou sévère, que doivent-ils faire de tout ça?
C'est Kachai qui a dit ça, Kachai qui a appelé des Kadioka, qui a proposé à l'ANA déjà commencer si on peut renvoyer ça l'année prochaine.
Par exemple.
Oui.
Donc, c'est un vrai problème de société, Marcel.
Jean Moupépé, restez toujours en ligne. On va accorder la parole aux auditeurs. Il y a Safari qui nous appelle depuis Inga Barrière, à Nituri également, Gentil qui est à Kadanga. On y va avec Safari depuis Inga Barrière. Bonjour Safari.
Bonjour, je salue aussi monsieur l'invité. D'accord, par rapport à l'émission... je pense que le fait de vendre les objets classiques à l'école, au niveau de l'école, ça ne serait pas quelque chose de si mauvais, selon moi. Mais ça serait alors très mauvais dans la condition où les vendeurs au niveau de l'école ne respectaient pas le prix universel, c'est-à-dire le prix qui est sur le marché. Donc, on devait faire quoi? Vendre à l'école, mais respecter les prix qui est sur les marchés. Ça, c'est ce qui devait se faire. Mais, malheureusement, parfois, on constate que les écoles qui vendent les objets, ne respectent pas, donc, les prix qui est sur les marchés. C'est ça le problème. Alors, la question se pose. Est-ce qu'on ne peut pas, établir une police, alors, derrière cette affaire, pour contrôler, alors, les prix au niveau des marchés et de l'école? Donc c'est ça la question, moi je me pose, mais ce qui pourrait peut-être faciliter. Sinon, supprimer carrément cet état des choses. Donc, renvoyer les élèves ou les parents automatiquement au niveau des marchés au lieu de les troubler. Donc, au niveau de l'école avec des prix exorbitants, parfois qui dépassent le niveau de certains parents. Mais je vais vous dire ceci, au contraire ici, cela ne se passe pas comme ça. Nous achetons les objets classiques automatiquement au niveau du marché. Donc, ça ne se passe pas comme vous le dites. C'est ça une petite contribution que j'avais pour l'émission. Sinon, merci.
Merci Safari d'avoir appelé depuis Aïga Barrière à Nitori. Gentil, vous êtes à Kananga. Bonjour Gentil.
Marcel, bonjour aussi à nos invités, vraiment, surtout à monsieur le président Serge Mombedi, vraiment. Nous saluons vraiment la décision, vraiment, de notre ministre de l'EPST, vraiment. Voilà, monsieur Marcel, ici, vraiment, à Kananga, on a toujours du mal, hein, par rapport au comportement de nos préfets, nos chefs d'établissement comme directeur ou bien préfet, vraiment. On est en train, vraiment, bon, de vendre les choses pas mal, vraiment. Les uniformes ici, on est tenté de les vendre, les journaux, vraiment. Je sais que j'ai remarqué ici à Kananga, vraiment. Ma petite sœur, vraiment, avait voulu entrer dans d'autres écoles comme ça, ici, dans notre commune ici de Katok, papa. Pour que la fille puisse aller s'inscrire là-bas, on a exigé l'argent à l'école. Pour s'inscrire, il te faut 8000 francs. Alors, on a regretté, j'ai regretté. À l'école secondaire, si on est en train de demander l'argent pour l'inscription, on regrette. Alors, il y avait encore d'autres exigences là-bas. Et pour entrer à l'école, il faut un journal. Un journal coûte maintenant 8000 francs. Nous regrettons ces choses-là. Alors, c'est pour cela, quand j'ai attendu vraiment la décision de notre ministre ici, vraiment, je suis en train quand même d'admirer cela. C'est bien quand même que M. Serge vraiment puisse aussi quand même se mettre dans cette affaire ici, vraiment, puisque c'est bien lui, vraiment, je lui ai attendu, vraiment, il est président pour la lutte contre les antivaleurs ici. Sauf qu'on a notre, il a aussi son ONGD ici à Kananga, mais je ne sais pas, il ne peut pas faire de la sorte que ces ONGD là puissent même descendre dans des territoires ou secteurs, puisque c'est très utile, puisque ici à Kananga, dans des territoires ici où les préfets, les chefs d'établissement ont en train d'exagérer avec les choses. Ce n'est pas bien vraiment, c'est bien des systèmes aussi. Alors ce que je demande aussi, est-il permis, bon, que le chef d'établissement puisse demander l'argent aux élèves au moment de l'inscription? Alors, pour ce que nous sommes en train d'entendre maintenant, on est en train de vendre les uniformes à l'école. Et si parfois un enfant ou bien quelques parents n'ont pas d'autre possibilité d'aller acheter les écoles, les uniformes à l'école ou bien à l'école là. Alors qu'est-ce que les parents là peuvent faire, puisqu'il y a d'autres parents qui n'ont pas la possibilité parfois d'acheter des uniformes à l'école et parfois espèrent quelque part. Maintenant, si parfois on exige toujours que non, il faut que qu'on achète toujours à l'école les journaux. Je n'ai jamais attendu. Je n'ai jamais vu vraiment un journal coûte 5 000. Alors si parfois une personne n'a pas 5 000 francs à l'école, est-ce qu'il peut étudier? Alors ça c'est la gratuité. Alors ça ne sera pas surtout bien. C'est pourquoi je salue aussi vraiment la décision vraiment de notre ministre. Pourquoi maintenant on est en train de distribuer les frais scolaires à l'école? C'est pour quand même aider les élèves pour leur distribuer les journaux ou bien les journaux gratuitement. Les euros parfois. On peut exiger, on peut dire de la sorte que chaque élève puisse acheter les uniformes partout là, au lieu d'exiger vraiment à l'école. C'est ce que j'avais voulu aussi vous dire et demander même à monsieur cher Serge Bombé, vraiment notre président, de se donner même partout là, même dans des territoires, puisque ici à Kananga, c'est seulement ONGD là qui est là-bas, mais nous souhaitons que ça soit encore vraiment dans nos territoires, même Kazumba et tout qu'on sort là, vraiment. C'est ce que j'avais voulu dire aussi, monsieur Marcel, merci.
Merci, gentil, d'avoir appelé du Kananga. On revient à notre invité, Jean Moupepe. Vous avez suivi deux avis contre elle. Il y a Safari, qui a appelé depuis Igabaré, qui estime que c'est pas du tout mal d'acheter des uniformes dans les écoles, mais le problème c'est par rapport à peut-être au prix, et il a souhaité qu'il y ait au niveau de l'inspection, plutôt de au niveau de l'enseignement, au niveau du ministère, hein, c'est-à-dire une brigade de contrôle pour s'assurer si les prix vendus, des uniformes vendus à l'école sont les mêmes que ceux qui sont vendus qui sont vendus au marché. Et Gentil qui lui plutôt c'est tout à fait le contraire, il estime que c'est une bonne mesure. Jean Moupepe.
Marcel, je me réjouis des avis que les amis viennent de donner.
Oui.
Mais je pars de la référence de ma propre référence.
Oui.
En 1965, je ne sais pas comment ça se faisait dans d'autres provinces. Moi, j'ai étudié à Kinshasa. En 1965, quand la vraie gratuité se pratiquait, ce problème ne se poserait pas. Je me rappelle, en 1965, le premier jour quand j'arrive à l'école, j'ai reçu 2 culottes d'uniforme, 2 chemises d'uniforme, 2 paires de chaussures et tous les documents, tous les matériels, dons du gouvernement. Pas dons du gouvernement, mais donnés par le gouvernement, quand le gouvernement prenait en charge l'enseignement. Aujourd'hui, nous savons que notre pays est face à plusieurs problèmes. Donc, la gratuité va aller progressivement. Il viendra peut-être un moment où on retrouvera cette situation-là de 1965. Je pose la question à Safari. Malgré la gratuité, est-ce que l'État donne des journaux de classe aux élèves du primaire ou des cahiers de communication? Ce sont toujours les parents qui doivent les acheter. Et quand ils ne les achètent pas, chers parents, ne vous cachez pas derrière certaines situations pendant que vous ne voulez pas donner aux enfants les fournitures qui sont exigées pour qu'ils puissent étudier. Quand vous dites la loi, mais vous, parents, vous êtes aussi frappés par la loi qui vous fait l'obligation de supporter les frais de vos enfants, de prendre en charge vos enfants. Comment un enfant peut aller à l'école sans cahier, sans journal de classe, sans compas, sans crayon? Je pose la question, que Safari réponde, que Serge réponde, que Katia réponde, que Gentil réponde. Parfois, certaines situations créées dans nos écoles, que ce soit les écoles publiques comme les écoles privées, sont dues à la faiblesse des parents. Peut-être parce qu'ils sont mal payés ou ils ne sont pas régulièrement payés. Certaines décisions que nous prenons, c'est comme si notre pays fonctionnait normalement. Mais nous sommes un pays dans une situation en crise. Chacun essaie de trouver une solution pour que les choses aillent au mieux. J'aimerais poser la question.
Oui.
Quels sont les prix du marché pour les produits scolaires, pour les fournitures scolaires? Est-ce que quelqu'un fait une étude là-dessus? Le journal de classe sur le marché, ça coûte combien? Les cahiers de communication, ça coûte combien? Et parfois, ça n'existe même pas. Dernièrement, j'ai suivi, le chef de l'État vient de décider qu'on arrête avec cette crise, cette carence, même des imprimés. Qu'en est-il alors des fournitures comme journal de classe, parfois qui ne sont même pas obligatoires, qui ne sont même pas contrôlées dans les écoles? Je prends une autre situation. Quand nous parlons de la formation, qui doit supporter la formation? Ce sont les parents. Mais là aussi, Imaé devrait dire, devrait ouvrir l'œil. Parce qu'il y a des frais qui sont exigés aux écoles. Et ces frais-là, parfois, même dans les écoles concernées par la gratuité, est-ce que Imaé s'y est pensé? Bon, pour revenir au sujet du jour, les interdictions sont tout à fait normales par rapport au texte que nous avons signé qui nous engage. Mais est-ce que nous devons donner dans l'excès? Les promoteurs d'écoles privées, les chefs d'établissement d'écoles publiques qui exagèrent devraient être sanctionnés normalement. Mais est-ce qu'il faut généraliser?
Mais est-ce que Jean Pépé, par rapport à ça, vous avez dit qu'il y a des bons promoteurs, c'est-à-dire que ceux qui pensent plus à la formation, à l'éducation des enfants, lorsqu'ils créent des écoles privées, mais là ceux qui sont vraiment des véritables commerçants. Alors vous êtes président professionnel de l'Association nationale des écoles privées agréées. Est-ce qu'au sein de votre association, vous abordez ces genres de questions?
Je ne suis pas président national. Notre président national, c'est Jean...
Professionnel. Non, excusez-moi, professionnel. Vous êtes président...
C'est Jean-Didier Massamba de l'école Massamba. Je rectifie.
Justement, vous êtes, national. S'il vous plaît, Jean Moupépé, vous êtes président provincial de l'Association nationale des écoles privées agréées. Alors, c'est ça que je voulais savoir. Au sein de votre Association nationale des écoles privées agréées, est-ce que vous abordez ces genres de questions?
Nous abordons ces genres de questions. Je vous signale que le président national est un député national.
Oui.
Il veille au respect de la loi. Il insiste sur les recommandations faites aux promoteurs pour qu'ils respectent les décisions du ministère. Parce que les sanctions sont sévères.
Oui.
Les sanctions peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément.
Oui.
Que ce soit le président national, que ce soit le secrétaire général de l'Association nationale des écoles privées, ce n'est pas, ont transmis ce message après la table ronde. Dites aux promoteurs qu'ils restent dans le strict respect des instructions de l'État. Parce que le ministre l'a souligné à la table ronde, l'enseignement est national, l'enseignement privé n'existe pas au pays. Dans notre pays, l'enseignement privé n'existe pas. L'enseignement est national, mais organisé dans les écoles publiques et dans les écoles privées. Donc, toutes les écoles sont soumises au contrôle de l'État. Parce qu'il n'y a aucune école privée qui organise l'examen d'État, le TENAFEP, le TENASOSP. Il n'y a aucune école privée qui signe les arrêtés pour les donner et tout ça, tout ça. Donc l'État, c'est l'autorité commune que nous devons respecter. Mais ce que nous demandons aux promoteurs de ne pas exagérer. Ce que nous demandons à l'État, parfois c'est de nous accorder un moratoire pour ceux qui ont déjà eu à faire les cahiers de communication, les journaux de classe pour cette année. Mais c'est aussi de reconsidérer la situation que l'ANAPECO doit être responsabilisé, suivi après la table ronde, un président, un provède et un président de l'ANAPECO dire aux parents, respectez vos obligations, payez les frais aux écoles. Avant, on disait, on ne peut plus chasser les élèves de l'école. Mais un président de l'ANAPECO, un provède qui dise, parents, respectez vos obligations. Est-ce que Imaé a déjà fait le tour pour voir la somme des dettes que les parents laissent dans les écoles? Qu'on voit aussi cet aspect-là. Les promoteurs vendent des maisons, leurs propres maisons, pour faire vivre les écoles. Les promoteurs vendent leurs biens. Les promoteurs sont criblés parfois des dettes. On dit oui, mais c'est vrai, avant d'organiser une école privée, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un compte de 6 mois en banque. Mais pendant le confinement, 6 mois, les écoles privées n'ont pas travaillé. Comment ont-elles vécu? Personne n'y a pensé. Je me rappelle que c'est sur vos antennes que le secrétaire général de la SONEPA et moi-même avons fait un plaidoyer. Le chef de l'État avait décidé, avait demandé au ministre, au premier ministre, d'aider les écoles privées qui étaient fortement impactées par la COVID-19. Jusqu'à cette date, il n'y a eu aucun résultat. Pourquoi on ne tient pas compte de cet effort que font les promoteurs? Pourquoi on veut toujours les vilipender? On veut toujours les considérer comme les marginaux, comme les mauvais dans le système éducatif? J'engage Imaé aujourd'hui à mener les enquêtes et en faveur des promoteurs qui se dépensent, et en faveur des parents, et en faveur du ministère, pour rétablir le juste équilibre.
Voilà.
Il y a des excès, que les inspecteurs fassent correctement leur travail et renseignent utilement l'autorité.
Voilà, on va s'arrêter par là Jean Moupépé. Je rappelle que vous êtes président provincial de l'Association nationale des écoles privées agréées, ASONEPA en sigle. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver prochainement.
Merci, c'est moi qui vous remercie.